merci d'être avec nous pour la suite de la série des candidates et des candidats. Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Candidate de combat, anticapitaliste, de rupture. Qu'est-ce que vous avez dit à vos élèves en vous absentant pour la campagne ?
Oh, que je reviendrai les voir sans doute. Voilà, après le premier tour. Donc, c'est ce qui va se passer.
Vous êtes professeur d'économie. Quel âge ont-ils ?
Ils ont entre 16 et 18 ans, donc je pense qu'effectivement, ils auront envie un peu de discuter de cette élection, je pense.
Avoir une prof économiste, trotskiste, révolutionnaire, de quel œil ils regardent ça ?
Bah, je pense que ça suscite leur curiosité et en tout cas, ça les aide à développer leur esprit critique, ça, il n'y a pas de doute.
Est-ce qu'on peut enseigner de manière objective quand on est marxiste, trotskiste ? Et qu'on enseigne l'économie ?
Bah, on peut enseigner ce qu'il faut enseigner, voilà, ce que le programme nous conduit à enseigner. Et puis, je pense que, voilà, moi, au moins, je joue carte sur table. C'est-à-dire que les élèves connaissent justement mes opinions politiques, mes perspectives, savent que je suis révolutionnaire. Je pense que ça les conduit à réfléchir, voilà. Je suscite l'esprit critique.
Alors, on va parler de vos idées, de votre programme, de votre personnalité aussi. C'est très frappant de voir à quel point vous dites « moi, je joue carte sur table » sur plusieurs sujets. L'Ukraine, notamment, vous êtes une des rares à ne rien déguiser d'une opinion qui est moins portée en ce moment sur l'OTAN et la Russie. Mais d'abord, quelques mots encore de vous, de cette posture qui est marginale aujourd'hui dans la société française. Le fameux grand soir, on n'en parle presque plus aujourd'hui du grand soir. Est-ce qu'on y croit encore ?
Mais moi, je pense que cette conscience que le système capitaliste nous mène à la catastrophe est de plus en plus présente dans les esprits. Ah oui, oui, moi, je pense que beaucoup de femmes et d'hommes, des classes populaires en particulier, qui sont victimes, évidemment, de la situation, des inégalités, de la galère quotidienne, réalisent que le système nous mène dans le mur, nous mène dans le mur au niveau des fins de mois, mais aussi la crise climatique et puis la guerre.
Si on regarde les sondages, pas tout à fait, quand même. On voit Marine Le Pen et Emmanuel Macron, les deux, aucun des deux ne veut renoncer au capitalisme. Voilà, c'est quand même
Mais vous savez que l'élection et le vote, c'est une vision très, très déformée de ce que peuvent penser beaucoup de femmes et d'hommes. Très, très, très déformée, parce que le petit jeu électoral, c'est quoi ? Le petit jeu électoral, c'est de remettre son sort dans un politicien professionnel et puis de croiser les doigts. Voilà. Bon, mais ça n'empêche pas, vous savez, beaucoup de femmes et d'hommes de penser beaucoup de mal de cette société capitaliste.
Est-ce qu'on croit encore que la rupture aura lieu vraiment ? La révolution, c'est arrivé dans l'histoire, dans les mémoires de Lénine, il y a ce moment extraordinaire, il est avec Trotsky, justement, qui dit en allemand « Es schwindelt », parce que c'était tellement inattendu, la tête leur tourne. Que ce soit arrivé. Est-ce qu'un jour vous imaginez ça ?
Vous savez ce qui a amené la révolution russe ? C'est la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire le produit même de cette société où il y a une guerre économique permanente. Là, en l'occurrence, c'était le repartage du monde. C'était la course aux colonies et c'était la question du repartage du monde qui a quand même provoqué cette guerre. 10 millions de morts, des souffrances incroyables, des soldats, des paysans, des ouvriers utilisés comme de la chair à canon. C'est ça qui a provoqué cette révolution.
Mais moi, pardon, je suis convaincue que... Est-ce que ça n'en dit pas beaucoup de votre projet politique ? En réalité, il faut le pire pour que ça arrive.
Mais le pire,
la guerre.
Vous savez, le pire, ce n'est pas moi qui vais le provoquer, encore une fois.
Mais vous pouvez
en
profiter.
Je n'y suis pour rien, moi.
Vous pouvez en profiter
dans
du
cette
pire.
Guerre. Je n'y suis pour rien dans cette crise climatique. Je n'y suis pour rien dans cette misère, dans cette difficulté pour les femmes et les hommes qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie de joindre les deux bouts. C'est le produit de ceux qui dirigent aujourd'hui.
Nathalie Arthaud, cette guerre, parlons-en, parce que ça envahit tout. Boutcha, Borodianka, les atrocités, vous êtes une des rares à avoir une position très claire à ce sujet. Vous renvoyez dos à dos, vous avez dit, les deux brigands, l'OTAN et Poutine.
Bah moi, je trouve que c'est terrible et ça me révulse, toutes ces images-là. Enfin, elles sont insoutenables, ces tortures, ces morts, voilà. Donc oui, bien sûr, Poutine me révulse, voilà. Et je peux dire, moi, le dictateur Poutine, voilà, ça ne me pose aucun problème parce que je n'envisage pas demain parler à Poutine et faire avec lui. Bon, donc voilà, moi, ça ne me pose pas de problème.
Est-ce qu'il n'est pas, pardon, si on s'arrête un instant à lui, est-ce qu'il n'est pas le produit du monde que vous avez rêvé, le monde de Lénine ? De Staline, non, c'était votre ennemi, mais de Trotsky. Voilà, tout ça, le résultat, tout ça, la police politique dont était issue, Monsieur Poutine?
Le projet communiste révolutionnaire, ce n'est pas la police politique, hein, je vous le
c'est
dis.
C'est le communisme non, tel qu'il a existé.
Non, c'est la caricature du communisme, la perversion qu'a été le stalinisme que nous avons toujours combattu. Qu'est-ce que c'est que le courant trotskiste? Sinon que l'opposition farouche, justement, à cette dégénérescence, à cette perversion, à cette caricature.
Mais pardon, vous savez, on ne va pas faire savez... l'histoire à fond, mais
non, on va
vous
faire...
avez
mais
fait beaucoup
attendez.
De morts. Le trotskisme a fait beaucoup de morts aussi. Idole a tué beaucoup.
Je rétablis juste la vérité et donc je m'élève contre votre mensonge. Votre mensonge, les premiers, vous savez, à être dans les goulags et à être persécutés par le stalinisme, c'est précisément les trotskistes qui ont toujours
combattu. Ils se
sont tués
entre eux, ça c'est sûr.
Non, qui ont combattu.
Trotsky qui réprime les marins de Kronstadt, qui tue, qui massacre, qui crée les premiers camps de concentration, ça c'est aussi la réalité historique.
Non, c'est absolument faux. Par ailleurs, il y a eu une guerre civile, ça je souscris complètement. De la même façon que cette Première Guerre mondiale, elle a condamné, y compris à mort, tous ceux qui cherchaient à se mutiner, y compris en France.
Oui,
y compris
temps,
en France.
Sûr.
Donc, si vous voulez, si vous voulez faire la liste de ceux qui ont une responsabilité directe ou indirecte dans les atrocités, dans les tueries, etc., je peux vous dire que beaucoup de nos généraux, là, qui ont leur nom en grand sur nos avenues, pourraient être mis sur la liste.
Ça, c'est vrai aussi. Mais Nathalie Arthaud, à part faire de l'histoire à fond...
C'est
mais
vous, hein.
Bien sûr. Est-ce que ça en dit pas long sur, la réalité des idées d'extrême-gauche très assumées, la force, la violence, y compris la violence sociale, selon vous, ça a une utilité?
La force, la violence sociale, elle est produite aujourd'hui par notre société capitaliste. Voilà, parce que c'est la violence. Vous savez, la première violence, c'est la misère. Et cette misère, eh bien, cette société capitaliste... l'inflige à des milliards d'êtres humains en réalité, parce qu'il ne faut pas regarder seulement les citadelles du capitalisme, les belles vitrines, les pays les plus riches, où en effet, encore qu'il y a des hommes et des femmes qui meurent aussi de misère, mais il faut regarder à l'échelle du monde. Et cette société capitaliste, c'est ça, c'est, vous savez, une personne qui meurt de malnutrition toutes les 10 secondes. C'est ça notre société capitaliste.
Nathalie Arthaud, et pourtant, si on entre même dans votre logique des deux brigands, des deux impérialismes, est-ce que l'impérialisme américain est quand même pas plus confortable avec les iPhones, les smartphones? Bien sûr, on est dominé économiquement, technologiquement par les États-Unis, mais il vaut quand même mieux vivre de ce côté-là que sous des régimes autoritaires comme la Chine et la Russie, non?
Il vaut mieux vivre du côté du bon côté du manche. Ok, mais justement, moi, je ne me place pas du bon côté du manche, si vous voulez.
Mais tout est
en
relatif.
Je ne me place pas du côté de ce monde des privilégiés. En tout cas, je n'ai rien de commun à cela. À ceux qui, justement, ne réalisent pas que leur beau smartphone, ce sont aussi des enfants qui doivent descendre dans des trous qui sont creusés à même le sol et qui risquent de s'effondrer sur eux et de les ensevelir vivants. Parce que c'est ça aussi, les iPhones. Les iPhones, c'est aussi les bagnes industrielles en Chine. Les Apple, les Samsung, tout ça, ils font leur profit sur tout ça. Sur cette misère de centaines de millions de femmes et d'hommes qui travaillent dur.
Bien sûr.
Donc
et
moi,
pourtant, pardon,
je ne me place
Chine,
pas de ce côté-là du manche.
Chine, quand on regarde que même en Chine, il y a une classe moyenne qui s'est créée, en gros, la Chine capitaliste, elle s'est davantage développée qu'après des siècles et des siècles d'anciens régimes.
Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous voulez nous faire croire que le capitalisme est en train de développer la prospérité à l'échelle du monde?
Si on regarde la carte du monde...
Non, c'est faux. C'est absolument faux. Y compris... Alors, c'est la pandémie a été sans doute à accélérer les choses. Mais les inégalités... on est en train d'expliquer que la famine va redevenir d'actualité. Pas seulement la malnutrition, pas seulement le manque de soins et de médicaments, la famine. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Donc voilà la direction dans laquelle qu'on est en train de prendre aujourd'hui.
De façon plus triviale à la politique française, mais si on ramasse tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a une petite partie de vous qui se dit, dans ce monde dans lequel on entre, où il y a la guerre, où il y aura peut-être de grands bouleversements, on a peut-être, entre guillemets, notre chance?
Mais notre chance, c'est pas... Il y a une urgence. Moi, je le vois comme une urgence. Une urgence, elle a changé cette société parce que, c'est à tous les niveaux qu'elle nous conduit à la catastrophe. On avait beaucoup parlé de la crise climatique. Alors maintenant, la crise climatique a été un peu escamotée par la guerre. Mais regardez, il faut quand même en tirer la conclusion. On va de crise en crise. Quand c'est pas un krach financier qui menace de tout foutre par terre, eh bien, c'est une pandémie.
Oui.
Alors, quand
mais
c'est
Nathalie
pas une pandémie,
Arthaud,
c'est
et
une
en
guerre.
Même temps, cette société survit bien. Elle a survécu au choc de 2008. Elle survit à la crise du Covid. Et la croissance même a étonné les plus sceptiques après la crise du Covid.
Elle survit bien. Pour qui? Pour qui?
Pour qui? Pour tous, mais
pour une
beaucoup.
Minorité. Ah,
c'est pas ce que disent les chiffres.
Eh bien, je peux vous dire que tant que ça ne marche bien que pour une minorité, on n'en aura pas fini avec les révoltes, avec les guerres, avec y compris la violence. Oh. Parce qu'une société qui ne vit avec que le luxe, l'accumulation de luxe à un pôle, le dénuement le plus total, qui force des femmes et des hommes à fuir chez eux, à risquer leur peau en traversant des mers, etc. Cette société-là, elle ne peut pas vivre dans la paix. Ce n'est pas possible.
Nathalie Arthaud, un ancien trotskiste, Lionel Jospin, disait...
J'ai cru que vous alliez parler de vous.
Ah, pourquoi pas, mais ça c'est le secret des convictions. Lionel Jospin disait, le génie du capitalisme, c'est de tout intégrer, même ses oppositions. Le capitalisme a intégré les congés payés, les assurances sociales. Cette capacité-là, est-ce que ça ne vous désespère pas?
Et il est même incapable de nous intégrer dans une guerre mondiale. Ça, on l'a déjà vécu. Oui, il est capable d'absorber beaucoup de choses, d'absorber même ceux qui prétendaient être des révolutionnaires. Il est capable d'absorber. C'est vrai, il a cette force-là que d'exister, d'être, de régner à l'échelle du monde. Mais encore une fois, moi, je suis convaincue que ceux qui en souffrent, que ceux qui sont les victimes de cette société-là, vont chercher à un moment donné les moyens de s'en sortir. Et ces moyens-là, et cette conviction, c'est qu'on doit la changer, cette société, parce que c'est non seulement une catastrophe, je l'ai dit, mais en plus c'est un gaspillage inouï. Moi, ce qui fait que je suis révolutionnaire et que je le suis depuis que j'ai 18 ans, c'est que je mesurais bien qu'on était capable de faire autre chose de cette société, que cette société, elle recelait des telles possibilités que c'était incroyable qu'on en reste à ce stade-là.
Fille de garagiste dans la Drôme.
Oui.
Oui. Catholique, famille catholique, c'est ça?
Oui.
Assez pratiquante.
Oh, comme à l'époque, la messe le dimanche, mais ni plus ni moins, enfin.
Comment il faut vous imaginer à la messe? Vous étiez croyante?
Alors moi, j'ai cessé de croire en Dieu à l'âge de 15-16 ans.
Donc, comment c'est arrivé?
C'est arrivé en réfléchissant par moi-même, en quelque sorte. Parce que vous savez, quand on est enfant, quand on est jeune, on est un peu sur des rails. On fait confiance, en plus, on est entraîné, et puis entouré de gens sympathiques, protecteurs, etc. Et des fois, on ne réfléchit pas par soi-même. Et quand je me suis vraiment, moi, interrogée sur qu'est-ce que je croyais, j'ai réalisé que non, je n'y croyais pas.
Est-ce qu'il y a une continuité? Je vous parlais une autre fois de Georges Marchais qui disait à la fameuse question « Et Dieu dans tout ça ?» Oui, peut-être qu'entre la foi catholique et le communisme, il y a une certaine continuité d'attachement à une idée dans la conviction, même fanatique.
Le fanatisme. Encore. Non mais le fanatisme, je peux vous dire qu'il est du côté de ceux qui ne jurent que par leur fric. Eux, c'est du fanatisme. Vous pensez pas que les capitalistes là qui ont transformé Orpea en machine à cash ne sont pas des fanatiques du profit?
C'est l'intérêt. C'est pas le fanatisme.
Moi, j'appelle ça du fanatisme parce que quand on en est là, à aller faire le dernier sou là sur les derniers jours de la vie humaine, je pense que c'est du fanatisme. Alors le fanatisme, il est pas de mon côté. Alors
et
par ailleurs,
pardon Nathalie Arthaud, est-ce qu'un peu de fanatisme ne nuit pas?
Pour revenir,
votre force de frappe, on dit sectarisme, mais vous avez réussi à rassembler vos 500 signatures. Vous étiez la première, je crois même, ou une des toutes premières. C'est extraordinaire.
Non,
quand
on
pèse
confond
si peu électoralement, vous avez une force de conviction qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
C'est ça, exactement. On confond conviction avec sectarisme aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il ne faut pas trop avoir d'idées qui sortent du cadre. Parce que dès qu'on sort du cadre, dès qu'on imagine la société autrement qu'avec cette course au profit, avec cette rentabilité, avec cette propriété privée capitaliste, on est vraiment bizarre, on est sectaire. On est à contre-courant,
sauf
ça
que,
c'est
pardon,
sûr.
Si vous
on
aviez
est à contre-courant,
pouvoir,
mais c'est des convictions.
La femme qui vous précède, Arlette Laguiller, citait souvent Robespierre comme modèle, Robespierre, qui a coupé tant de têtes. Vous êtes toujours robespierriste.
Oui, mais vous savez, avant lui, le roi et la royauté en avaient coupé pas mal aussi des têtes.
Êtes toujours robespierriste?
Oui, je suis. Mais moi, je pense que maintenant, c'est un autre type de révolution qu'il faut. Parce que Robespierre, il a porté la bourgeoisie au pouvoir. Cette bourgeoisie, parce que c'est la bourgeoisie, en l'occurrence, celle qui règne aujourd'hui, qui a coupé les têtes en réalité, et qui a été, pour installer effectivement son ordre à elle, et pour en finir avec les privilèges de la noblesse, a été prête à faire cette révolution. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle révolution à faire, une révolution des travailleurs à faire.
Ça veut dire, que la force est inévitable?
Bah, je pense que tout est rapport de force dans cette société, mais absolument tout. Hein. Du matin jusqu'au soir, on vit un rapport de force. Et aujourd'hui, ceux qui ont la force, c'est ceux qui ont les capitaux. Et ils ont la force, effectivement, de nous soumettre, hein, de nous obliger à faire ci, à faire ça, à être au chômage.
Je vous ai interrompu tout à l'heure, mais vous vous disiez, voilà, 15-16 ans, crise de foi. En tout cas, vous abandonnez...
Si vous voulez. Hein.
Et là, la conviction, la vocation communiste, elle vient comment ?
Mais c'est vrai que là où vous avez quand même raison, c'est que, y compris dans un certain nombre de religions, enfin dans les religions en général, il y a quand même cette idée humaniste à la base. Hein, en tout cas, voilà, une certaine revendication de l'égalité. Voilà. De l'égalité, cette conscience que finalement les femmes et les hommes devraient être égaux. Voilà, devraient être égaux. Et je pense que oui, j'ai quand même été imbibée par ces valeurs-là.
Jusqu'à la violence, imposer la violence. Il y a ce mot de Rivarol qui dit, en parlant des révolutionnaires, leur idée c'est « soit mon frère ou je te tue ». Il faut forcer l'égalité.
Mais vous savez, mais entre parenthèses, même dans la religion, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein, il y a quand même des belles pages aussi, très violentes. Hein.
Dans l'actualité,
vous voyez de quoi je fais allusion.
Dans l'actualité de l'époque, c'est quelles années là ? Vous avez 15, 16, 17 ans.
Oui, donc c'est 86. Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est la famine en Éthiopie. Famine en Éthiopie, et vous vous rendez compte, on nous explique que là, ça va revenir. Ça va revenir avec les spéculateurs là, sur le blé, hein, qui profitent effectivement que l'Ukraine et la Russie risquent de ne pas pouvoir cultiver leurs terres comme ils le font, hein, pour faire flamber le cours du blé. Vous savez, vous parlez de violence. Alors, ils sont en col blanc, ils sont à la bourse de Chicago, de Londres, hein, ils ne sont pas à Moscou, hein, mais moi, j'appelle ça des criminels. Des criminels, parce qu'ils savent pertinemment que de faire flamber comme ça et de jouer avec les stocks, avec ce qu'ils ont acheté avant-hier, avant-avant-hier, etc., ils savent très bien que ça va plonger dans la famine des centaines de millions de femmes et d'hommes. Ben moi, j'appelle ça des criminels.
Quelle application très concrète ? Là, voilà, 10 avril d'abord, vous avez quoi, 0,5%.
Bah surtout, moi, 10 avril, c'est dimanche. Après, lundi, je retourne au boulot, mais comme plein de gens, voilà. Et pareil, le 25 avril, au lendemain du deuxième tour. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une élection là, dont on nous dit que notre sort dépend de celui qui va sortir du chapeau. Eh bien, moi, je dis non. Je dis ce n'est pas vrai.
Est-ce que vous appellerez à voter pour l'un ou pour l'autre ?
Moi, j'appellerai les travailleurs à cette conscience que toutes nos forces sont intactes, quel que soit celui qui est président de la République et qui va en réalité nous infliger des sacrifices et nous taper sur la tête. Eh bien, nous continuons d'avoir cette force-là.
Donc, pardon,
de faire
pour reprendre
toutes les
la
richesses.
Formule Poutine versus OTAN, c'est deux brigands selon vous ?
Alors oui, d'ailleurs, j'ai pas pu finir le
vous
raisonnement.
Finirez, vous finirez.
Mais voyez, Poutine, moi, il me révulse, mais effectivement, la politique des États-Unis, de l'impérialisme américain, me révulse aussi, et pareil pour la France. Donc voilà, je boucle le raisonnement.
Ça veut dire quoi ? Entre Macron,
en suspens.
Allez, prenons le plus probable d'après les sondages. On sera peut-être démenti, mais entre Macron et Le Pen.
Mais moi, je les combats tous les deux. Je suis convaincue que Marine Le Pen au pouvoir ferait la politique de Macron avec ce petit supplément, hein, ce petit supplément que de nous faire marcher à la baguette et de dresser les travailleurs les uns contre les autres, parce que voilà, entre il y aurait des différences entre ceux qui sont d'origine, ceux qui sont immigrés, etc., etc.
Donc pour moi, que vous répondez,
de toute façon, il faut les combattre tous les deux.
Aux voix morales qui vous diront, d'un point de vue de gauche, vous êtes quand même de ce monde-là, même si c'est l'extrême gauche, ce que vous dites est immoral parce que vous pouvez favoriser la venue au pouvoir de Marine Le Pen.
Ah non, mais attendez, c'est Emmanuel Macron qui a favorisé la venue au pouvoir de Marine Le Pen. C'est sa politique. J'ai rencontré, il n'y a pas bien longtemps, un contrôleur de la SNCF qui, la discussion s'est engagée, hein, évidemment, qui avait tellement la haine de Macron qu'il m'a expliqué que lui, au deuxième tour, il était prêt à voter pour Le Pen. Vous voyez ? Bon, voilà la situation.
Est-ce que c'est excusable,
Macron,
ça, pardon, vous avez
Macron,
prononcé
barrage.
Le mot, vous avez prononcé le mot haine.
Oui,
il y a
une haine contre Emmanuel Macron, bien sûr, dans les classes populaires. Mais pourquoi ? Quand vous avez un gouvernement
mais vous
qui
assumez
va chercher...
ce mot, pardon, Monsieur Mélenchon, dans une déclaration qui a fait beaucoup de bruit, disait la haine peut être saine. Vous pensez ça ?
Bah, je pense que la haine va pas être constructive si on la met pas effectivement, si elle n'est pas accompagnée de conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut changer. Donc moi, si j'ai une politique, c'est bel et bien pour que justement les révoltes et les explosions de colère se traduisent positivement, permettent de construire autre chose.
Ce matin, Valérie Pécresse, elle était presque Nathalie Arthaud.
Ah bon ?
Bah oui, elle disait... Je caricature et je plaisante, évidemment. Mais elle disait, je ne donnerai pas de consigne de vote. Elle votera à titre personnel, mais je ne donnerai pas de consigne de vote. Comment vous lisez ça ?
Bah, en tout cas, c'est évident que Emmanuel Macron, je n'ai pas terminé encore là-dessus, mais quand vous voyez qu'il est allé jusqu'à prendre de l'APL, jusqu'à baisser les allocations chômage, quand vous voyez que voilà, il a continué sa politique d'aggravation, de recul des droits des travailleurs, bon, bah, évidemment, tout ça, on ne peut que être en colère, on ne peut que être opposé. On ne va pas le dire, ah bah écoutez, voilà, oui, effectivement, vous avez bien fait du mal, mais allez-y, continuez. Enfin bon, ça ne rime à rien.
Donc, pas de consigne de vote. Et bah, vous, à titre
je
personnel,
les combats, les
à titre
deux,
personnel, pardon, et... est-ce que vous irez voter le 24 avril?
Moi, je me déplace, oui, la plupart du temps au deuxième tour pour voter blanc.
À chaque fois, vous avez voté blanc?
Pas à chaque fois, mais
pour qui avez-vous
très
voté
souvent.
Dans le passé
la dernière fois, je n'avais pas voté pour Emmanuel Macron. J'avais voté blanc, précisément. Et je peux vous dire que j'en ai été contente pendant 5 ans. Pendant 5 ans où j'ai manifesté contre sa politique. Pendant 5 ans où j'ai protesté contre toutes ses décisions. J'étais bien contente de ne pas être responsable en partie de ce qui se passait.
Votre premier vote à une présidentielle, c'était quand?
Je crois que c'était en 88. Et à l'époque, je n'étais pas encore militante. Et je crois bien avoir voté pour Mitterrand.
Vous avez voté pour François Mitterrand, pour le suppôt de la bourgeoisie.
Oui, comme beaucoup.
Pour le fourrier de la bourgeoisie.
Vous savez, y compris en 81, Lutte ouvrière avait appelé à voter au deuxième tour pour François Mitterrand en disant que, sans illusion, mais en étant...
Vous avez presque honte, vous vois, l'ancien cagoulard Mitterrand, franchement.
Mais justement, nous, vous voyez, on n'avait pas fait comme si on ne le savait pas. Nous, on n'avait pas fait comme si on ne connaissait pas toute cette histoire et comme si on avait des illusions. Nous, justement, on avait averti les travailleurs en leur disant « Attention, cet homme-là, il est allé à la soupe à gauche parce qu'il y avait peut-être un peu plus dans la gamelle. Voilà. Mais attention, aucune confiance à lui faire. Maintenant, nous, on est dans le camp du monde
Nathalie
du travail. »
Arthaud, est-ce que ce n'est pas toujours la logique du pire? Parce que François Mitterrand, oui, passé très opportuniste, ancien cagoulard, ce qu'on voudra, mais il y a eu des progrès sociaux objectifs. La suppression de la peine de mort... un certain nombre de droits sociaux qui ont été amenés.
Oui.
La suppression de la peine de mort.
Un droit démocratique très, très important, en effet.
Est-ce qu'il ne valait quand même pas mieux ça que rien?
Non, mais mieux ça que rien. Le problème, c'est que vous avez un candidat qui vous explique qu'il va rompre avec le capitalisme. Il va rompre avec le capitalisme et que enfin les travailleurs connaîtraient leur émancipation, leur liberté, etc., etc. Et puis finalement, toute sa politique, parce que ça a été 3 ans, effectivement, de grâce, on va dire. Et puis, pour le reste, ensuite, ça a été la rigueur, la fermeture des usines, le chômage, etc., etc. Et tout ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a profondément démoralisé et écœuré le monde du travail. Les électeurs, précisément de gauche, qui aujourd'hui sont complètement... perdus et sont prêts à se vouer à n'importe quel diable.
Nathalie Arthaud, on parlait de la vocation, parents garagistes. Alors les garagistes, c'est là, pardon pour les garagistes, honneur aux garagistes, respect, mais il y a une caricature.
Enfin, très utile les garagistes.
Bien sûr, rien contre les garagistes, mais souvent c'est l'exemple même du petit patron très libéral, très économie libérale. Ils étaient comme ça?
Non, mais vous voyez, vous êtes plus caricatural que moi.
Peut-être.
Parce que vous voyez, moi je ne fais pas comme ça, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Voilà.
Alors, comment ils étaient, vos parents?
Non, moi je pense que je sais que mon père avait un ouvrier qui avait démarré avec lui. Voilà, ils ont travaillé ensemble jusqu'au bout. Jusqu'au bout, voilà.
Qu'est-ce qu'il votait, lui?
Je pense qu'il était centriste. Je pense que voilà. Mais comme ça ne discutait pas politique, finalement, dans ma famille...
Est-ce que ce n'est pas la nature même? Vous me disiez tout à l'heure, vos élèves, beaucoup de vos élèves, ils ont envie de monter leur propre boîte. Ils n'ont pas tellement envie d'être trotskistes, ils ont envie de monter leur propre boîte.
Bah, écoutez, quand dans les quartiers populaires, vous voyez ce chômage de masse, quand vous voyez toutes ces difficultés, quand ils voient leurs parents au boulot, mais bien sûr qu'ils se disent, je vais essayer de m'en sortir autrement.
Mais est-ce que c'est pas ça le génie capitaliste
aux
jeunes d'aujourd'hui?
Je peux vous dire
qu'il y a plus de jeunes qui ont envie de monter leur boîte que de jeunes qui ont envie d'être trotskistes, non?
Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de luttes et parce que les mondes du travail ne montrent pas sa force. force. Mais je veux vous dire, dès que ça sera le cas, la jeunesse sera attirée comme un aimant du côté de tous ceux qui sont en révolte. J'en suis convaincue. Mais aujourd'hui, en effet, beaucoup de jeunes, essayent de s'en sortir. Et puis finalement, quand ils se heurtent à la réalité, ils réalisent. Mais même dans les entreprises, vous savez, quand vous êtes salarié, bon, ils font beaucoup ça avec les intérimaires. Hein, ils leur brandissent la promesse d'une embauche. Alors bon, ils se déchirent. Ils pètent les cadences, ça y va, ils se donnent à fond, etc. Et puis quand ils voient qu'ils ne sont pas embauchés, ils réalisent que ce n'est pas comme ça que ça marche, qu'on leur a fait croire en des promesses bidons. Voilà. Et à partir de là, il y a d'autres idées qui viennent, qui se construisent et qui les mènent parfois à se dire vraiment, non, ce système, il ne va jamais nous donner notre chance.
Nathalie Arthaud, il y a une dynastie, pour ainsi dire. Arlette Laguiller, qui était la princesse régnante, ancien régime de la lutte ouvrière, aujourd'hui c'est vous.
Mais vous ne pouvez que raisonner en hiérarchie, en fief, c'est incroyable.
Vous me disiez tout à l'heure, parce que je voyais la personne qui vous accompagnait, je disais, est-ce que c'est le chef de campagne? Pas de chef.
Non, il n'y a pas de chef. Nous, c'est une direction collective. C'est très. Voilà, on fait les choses ensemble. Mmh. Et moi, je ne me conçois pas. Je suis la porte-parole, je suis là, la candidate, mais je ne suis pas au-dessus des autres camarades militants.
Dans 5 ans, vous serez là?
Je ne suis pas. Mais où serons-nous dans 5 ans?
Ouais.
Tous. Où est-ce que nous en serons dans 5 ans? Mais oui, écoutez, il faut quand même mesurer que on ne savait même pas si l'élection présidentielle allait se tenir là, si elle n'allait pas être décalée avec la pandémie, parce que ça a chamboulé beaucoup quand même. Mais vous voyez, la guerre, la crise, ça peut chambouler beaucoup de choses, je peux vous dire. Le petit ronron électoral, et y compris une révolte, ça pourrait chambouler tout ça.
Est-ce qu'il vous arrive de douter?
Moi, il m'arrive... Non. Tous les jours, j'ai une raison de plus d'être en colère contre cette société. Voilà. Quand c'est pas les EHPAD, c'est Buitoni. Voilà. Quand c'est pas Buitoni, c'est McKinsey. Et on se dit, mais on va où, là? On va où? Avec
Merci.
Tout ce parasitisme.
Merci, Nathalie Arthaud, d'avoir été notre invitée. Rendez-vous dimanche. Merci beaucoup.
Et rendez-vous lundi dans les luttes.
Merci.
Merci.